France Culture.
Например, вот я скажу.
По радиостанции.
Что вы, санкции еще? Я вас слушаю.
Мы вам дадим кредит.
Никита Сергеевич, Хрущев.
Вполне то. Доправляться и проще отдыхать, повыше. Нет.
Никита Хрущев, il succède à Staline.
Attention, l'émission va commencer. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Third one, track one of tape number one, continue.
Воспоминания Никиты Хрущева.
Une histoire particulière. Les mémoires de Nikita Khrouchtchev. Marie Chartron, Franck Lilin.
C'est en ces termes que Radio Moscou a annoncé en français, la nuit dernière, l'événement.
Au plénum du comité central et à la réunion du présidium du Soviet suprême, a été satisfaite la demande de Nikita Khrouchtchev de le libérer des obligations du premier secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, de membres du présidium du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique et de président du conseil des ministres de l'URSS en raison de son âge avancé et de l'altération de son état de santé.
Premier épisode. Pensionnaire.
Premier épisode. Le retraité.
Et donc, le 14 octobre 1964, Khrouchtchev est convoqué pour une réunion du comité central qui est extraordinaire, qui est imprévue. Il est convoqué, il est alors sur la mer Noire, il se repose. Il se doute un petit peu que quelque chose va se passer. Les gens ont cherché à le prévenir. Il n'a pas voulu croire jusqu'au bout. Ce n'est que dans l'avion qu'il emmène vers Moscou qu'il réalise pleinement qu'il va certainement être destitué. Il s'imagine peut-être même physiquement liquidé. Il ne sait pas encore ce qui va se passer, mais il se doute qu'il va passer un mauvais moment en ce 14 octobre 1964. La suite de l'histoire est connue. Le premier qui va parler, qui va raconter aux Occidentaux la destitution de Khrouchtchev, c'est un homme dont peu de gens connaissent l'identité et l'origine à l'époque. C'est quelqu'un d'assez mystérieux qui s'appelle Victor Louis, sur lequel on aura l'occasion de revenir. Il est à l'origine d'un scoop. Khrouchtchev a été destitué. Un jour avant que cette nouvelle a été officiellement annoncée. Ça se passe donc le 15 octobre, que les Occidentaux l'apprennent. La presse occidentale publie l'information. La source, c'est Victor Louis. Et il a vendu, bien sûr, ce scoop. Il a gagné de l'argent là-dessus. Il n'en est pas à son coup d'essai. Et bientôt, Victor Louis va s'illustrer avec une autre opération encore plus importante qui va lui rapporter encore plus d'argent. C'est l'exfiltration des mémoires de Nikita Khrouchtchev en Occident.
Victor Louis, ce personnage aujourd'hui oublié, nous y reviendrons plus tard.
Все-таки Красная армия утекает в Ерштубалах, в город Шанхай.
Mais avant cela, il nous faut replonger dans le monde des années 1960. Et cette voix d'outre-monde, c'est celle de Nikita Khrouchtchev. Pour cet homme, immortalisé sur des images iconiques qui le montrent, ici le poing brandi à la tribune de l'ONU, là, saisi sur le vif en plein coup d'éclat, le doigt levé, une histoire se termine et une autre commence peut-être. Nous sommes en Union soviétique, dans une maison à l'ouest de Moscou, en pleine guerre froide, c'est-à-dire dans un monde codé, un monde très certainement fantasmé et un monde objectivement fermé.
Que dire des pensées de la population de Moscou ? C'est une chose à laquelle je ne me risquerai pas, car je pense que personne actuellement ne peut le dire, de même que personne ne peut dire exactement maintenant, sauf en utilisant des suppositions et des hypothèses, le pourquoi et le comment et le futur de ce qui s'est passé cette nuit et même au cours de ces deux derniers jours.
Archives radiophoniques diffusées le 15 octobre 1964.
C'est hier, je vous le rappelle, que nous avons eu les premiers indices de ce que quelque chose clochait à la tête du parti et du gouvernement. Vers midi, j'ai obtenu quelques informations, et notamment celles-ci. On a décroché des murs et des bâtiments administratifs de Moscou les portraits officiels de M. Khrouchtchev. Ce portrait, qui est suspendu sur les murs de toutes les ambassades, dans le monde entier, portrait officiel de M. Khrouchtchev en buste avec sa cravate, où il apparaît en veston avec ses 3 médailles d'or et celle de héros du travail socialiste. Eh bien, dès hier matin, les portraits ont été discrètement enlevés des murs et ils ont laissé une marque blanche dans tous les bâtiments administratifs.
Quand Khrouchtchev est destitué, et il aura la vie sauve, il dira à un de ses amis, de ses proches, « Tu vois, j'ai été chassé du pouvoir, mais par contre, je suis resté vivant. » Et ça, c'est un peu grâce à moi aussi.
Andrei Kozovoy, historien.
Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? C'est parce qu'à l'époque de Staline, naturellement, on l'aurait éliminé. Et puis lui-même, Khrouchtchev, n'a-t-il pas fait arrêter Beria avec d'autres amis du Présidium ? C'était en juin 1953. Et ce même Beria qui a été accusé des pires crimes, un peu comme ce qui se passait à la fin des années 30, hein, les mêmes crimes que Beria imputait aux soi-disant espions. Il a été accusé d'être un espion à la solde des Britanniques. Entre autres crimes... et exécuté en décembre 1953. Mais cette fois, grâce au dégel, grâce à la déstalinisation, l'Union soviétique est devenue civilisée, les mœurs se sont adoucies, Khrouchtchev est vivant. Et effectivement, il sera retraité.
Khrouchtchev had gone into retirement and was living, spending a lot of time at his dacha, and he was gardening and just kind of...
Khrouchtchev était donc en retraite. Il passait beaucoup de temps dans sa dacha. Il jardinait comme un retraité.
Spending time in his garden like a typical pensioner, and his grandson.
Un jour, on a demandé à son petit-fils à l'école. Mais qu'est-ce qu'il fait ton grand-père toute la journée? Le garçon a répondu: grand-père pleure.
Ross Öfberg, écrivain et traducteur.
He was depressed. He had occupied the absolute highest position of power in the Soviet Union and possibly the world.
Il était déprimé. Il avait occupé la position suprême du pouvoir en Union soviétique et peut-être même dans le monde entier, puis on l'avait contraint à une espèce de non-existence.
A kind of non-existence. Nikita Khrushchev, after he left power, was sort of written out of history. And
après avoir quitté le pouvoir, Nikita Khrushchev a été littéralement rayé de l'histoire. Son nom a été effacé de nombreux livres. Et il n'y a eu aucune émission de radio ou de télévision sur lui qui revienne sur son héritage politique. Il est devenu une non-personne.
That wasn't unusual in the Soviet Union to erase people from history. Stalin had done it.
Ce n'était pas inhabituel dans l'Union soviétique d'effacer des personnes de l'histoire. Staline l'avait fait avec presque tous ses collaborateurs qu'il avait tués d'une manière ou d'une autre.
One day they'd be in the newspaper as these
un jour, ils étaient célébrés dans les journaux comme de fabuleux communistes bien dans la ligne, et le lendemain, on pouvait lire qu'ils avaient été condamnés pour trahison et exécutés comme des chiens. Et puis, le surlendemain, leur nom était effacé de l'histoire, le scénario habituel pour effacer le nom de vos ennemis. Brezhnev, qui avait poussé son farouche ennemi Khrouchtchev vers la sortie, et avait pris sa place, avait simplement fait la même chose que Staline, et probablement que Khrouchtchev lui-même. Donc, d'une certaine manière, Khrouchtchev faisait l'expérience de ses propres méthodes.
Il a 70 ans. En 1964, au moment où il est destitué, il a 70 ans, Khrouchtchev, c'est un hyperactif. et déborde encore d'énergie. Donc Khrouchtchev est retraité. Il va quitter le Kremlin et il va être envoyé dans une autre datcha, plus tard, qui se situe près du village de Petrovo-Dalnyé. Petrovo-Dalnyé, qui se trouve à l'ouest de Moscou, que Khrouchtchev va conserver jusqu'à sa mort. Si vous voyez la maison, vous dites « c'est pas possible, c'est pas la maison d'un ancien premier secrétaire du parti, l'homme qui a fait trembler le monde en 1962 pendant la crise des missiles de Cuba, c'est pas possible. Une maison d'un étage, en bois, peinte en verre, et puis une maison bien isolée de l'extérieur, par une barrière assez élevée, devant laquelle on monte constamment la garde, jour et nuit, et qui surveille chaque déplacement de l'ancien dirigeant en permanence. Et des micros, évidemment. Évidemment, à l'intérieur de la datcha. C'est pour cette raison-là que beaucoup de discussions privées entre Khrouchtchev et son fils, Sergueï, qui était le principal maître d'œuvre et qui sera le principal maître d'œuvre de ses mémoires, se déroulaient à l'extérieur.
Je ne me souviens plus si Sergueï m'a raconté précisément quand son père a eu l'idée d'écrire ses mémoires, mais que cette idée provienne de Nikita lui-même ou que d'autres la lui aient soufflé, il en est venu à la conclusion suivante. Premièrement, on est en train de m'effacer de l'histoire. Donc, si je veux que l'histoire se souvienne de moi, c'est moi qui dois me souvenir de moi-même.
And number two, it was something to do, and once he started it, it gave him.
Deuxièmement, c'était une occupation. Une fois qu'il s'y est mis, ça lui a donné une raison de se lever le matin. Il a commencé avec un magnétophone de fabrication allemande, UR, qui pesait 5 kilos et qu'il emportait partout avec lui. Comme il savait que sa datcha était sur écoute, que les soviétiques au pouvoir avaient placé des micros partout, il partait se promener en forêt avec son magnétophone de 5 kilos. Il racontait simplement des histoires de manière un peu aléatoire sur son enfance, son ascension dans le parti, son rôle à la tête de l'Union soviétique. Ce n'étaient pas des récits organisés. Quand une histoire lui venait à l'esprit, il s'adressait au magnétophone. Mais cela lui donnait vraiment un but.
Cette idée de faire des mémoires, elle n'apparaît pas tout de suite. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu d'avance, qui est prévu tout de suite. Dans ses mémoires, Sergueï Khrouchtchev, le fils de Khrouchtchev, évoque l'année 1966. Par qui cette idée lui a-t-elle été glissée ? Sergueï Khrouchtchev évoque Lev Petrov, un journaliste qui a été correspondant au Canada, qui est lié à Khrouchtchev, à la famille. On sait que Petrov a travaillé pour les services secrets soviétiques. Il a été non pas au KGB, mais à la GRU, à GRU, les services secrets de l'armée. Et donc, dès le départ, d'une certaine manière, on peut penser, sans être forcément versé dans le conspirationnisme, que c'est une idée des services secrets, mais pas nécessairement. Encore une fois, l'idée ici, c'est occuper Khrouchtchev. Il n'aime pas écrire. Il va utiliser des moyens technologiques, des enregistreurs, des magnétophones. Khrouchtchev, c'est un homme qui a eu une éducation très incomplète. Très, très incomplète. Jusqu'à la fin de sa vie, il ne sait pas écrire correctement russe. Il fait des énormes fautes. Il écrit, en fait, comme les mots se prononcent. Pour vous donner un exemple, le mot concombre en russe se dit agurets. Agurets, ça se prononce comme s'il y avait un A, en fait c'est un O, mais il va l'écrire avec un A, etc. Bon.
Il est persuadé qu'il a une place dans l'histoire de son pays. Pourquoi cette place ? D'abord parce qu'il a été premier secrétaire du Parti communiste pendant un certain temps, jusqu'en 1964, enfin il est 11 ans, quoi, premier secrétaire. Pendant une période où il se passe beaucoup de choses, une période dans laquelle en particulier, il porte un coup brutal au culte de Staline.
Jean-Jacques Marie, historien.
son rapport est de ce point de vue-là un document historique, même si, évidemment, c'est facile aujourd'hui de dire qu'il oublie un certain nombre de choses et qu'il en camoufle d'autres, etc. Il n'empêche que c'est une bombe. Ensuite, il a joué un rôle dans la mesure où il a essayé de trouver des solutions, alors ça a marché plus ou moins bien, à certains problèmes, comme les problèmes agricoles. Il a aussi joué un rôle dans la mesure où, alors c'est un rôle ici négatif, où il a organisé l'écrasement de la révolution hongroise, et essayé d'étouffer la demi-révolution polonaise, tout ça en 56. Je ne mettrai pas sur mes pieds, évidemment, l'écrasement de la révolution hongroise et le rapport contre Staline, mais pour lui, dans les deux cas, ce sont deux positions qui définissent son rôle comme dirigeant suprême.
Mais pour revenir sur les raisons qui l'ont poussé finalement à se lancer dans cette grande aventure. Il y a d'abord la guerre, la Seconde Guerre mondiale, ou comme on l'appelle en Union soviétique, la Grande Guerre patriotique 1941-45. Khrouchtchev a participé à cette guerre. C'est un ancien combattant. On en parle énormément à partir de 1964, de plus en plus, pour une raison politique. La mémoire de la guerre sera instrumentalisée par le nouveau pouvoir, par Brejnev en particulier. Brejnev qui a aussi participé au conflit, mais de manière très périphérique. Et Brejnev va chercher en fait à utiliser cette guerre à des fins de promotion personnelle et de légitimité. Et ce qui frustre Khrouchtchev, c'est la manière dont on va parler de cette guerre. Il va dire à plusieurs reprises, moi je vais raconter la vraie guerre, celle qui a vraiment eu lieu, celle que j'ai vécue, pas le chewing-gum qu'on nous fait avaler à la radio et à la télévision. Le premier motif, c'est celui-là.
C'est qu'il méprise profondément la bande de Brejnev qui lui succède. Et il veut laisser la preuve qu'entre lui et ces gens-là, il y a un abîme. Brejnev marque la fin de toute évolution. C'est une sorte de gel. Il veut geler tout.
Le deuxième motif, c'est Staline, bien sûr. L'ombre de Staline. Son bienfaiteur. Il faut se souvenir que Khrouchtchev a été l'un des promus de Staline. Il doit sa carrière à Staline, quand même. C'est une obsession pour lui. Staline est mort, mais il n'arrive pas à s'en débarrasser. Et là aussi, revenons un petit peu dans le temps. 1956, février 56, le 20e congrès du parti. C'est Khrouchtchev qui a été le moteur de la déstalinisation. L'idée de déstalinisation n'était pas celle de Khrouchtchev. Elle était celle des successeurs, elle était celle de Beria, de Malenkov. Khrouchtchev récupère cette idée et, pour devenir un petit peu son incarnation, et c'est ça qui fait sa légitimité aussi dans les années 50, c'est l'homme de la déstalinisation. C'est l'homme qui rompt avec cette tradition terrible de fermeture de l'Union soviétique, et de glaciation, et bien sûr d'arbitraire et de torture au sein des prisons, des services secrets, etc. Donc l'obsession de Staline, c'était une motivation très importante. Et en quoi c'est une obsession à ce moment-là, à la fin des années 60, hein, au moment où Khrouchtchev a commencé à dicter ses mémoires, c'est qu'on perçoit en Union soviétique un semblant de réhabilitation de Staline. Donc Khrouchtchev a l'impression qu'on va définitivement tourner la page de sa grande œuvre qui est la déstalinisation.
Et donc il veut marquer sa place dans l'histoire. Alors sans doute, bien sûr, cette place, il l'embellit. Après tout, quand on lit les mémoires des dirigeants politiques, moi je me rappelle, il y a longtemps, j'ai lu les mémoires de Joseph Caillou et de Clémenceau, ils se donnent le bon rôle. Hein. C'est fait. D'ailleurs, les mémoires, c'est le genre historique le plus mensonger, c'est connu, c'est pas moi qui ai découvert ça. Il faut s'en méfier des mémoires.
Et donc, la troisième raison, c'est de parler de lui. Parce que tout est lié. Il se dit quand même, grâce à qui on a envoyé un homme dans l'espace en 1961, Gagarine ? Grâce à qui l'Union soviétique a fini par s'ouvrir sur l'Occident et a bénéficié de cette ouverture, de ce dégel ? C'est aussi après le 20e congrès qu'on a eu cette coexistence pacifique avec l'Occident. Qui s'est ouvert sur le tiers-monde dans le contexte de la décolonisation pour diffuser la parole messianique, soviétique, pour essayer de gagner le plus de, possible de pays du tiers-monde récemment décolonisés, que ce soit en Asie du Sud-Est ou en Afrique, à la cause du communisme. Grâce à qui? C'est moi. Il faut dire la vérité, donc c'est un désir de vérité, bien sûr. Une vérité qui le sert lui, évidemment. Et ce sont ces trois objectifs qui finissent de convaincre Khrouchtchev. L'objectif de raconter la vérité sur la guerre, sur Staline et sur lui-même, qui finissent de le convaincre de la nécessité d'entreprendre cette opération des mémoires et de dicter ses mémoires. Parce que ce sont des dictées. Il ne va pas écrire.
Je me souviens de ma prime jeunesse. J'ai été témoin d'une terrible affaire dans le Donbass en 1910. Le choléra y sévissait alors. Beaucoup de mineurs mouraient dans la mine où mon père travaillait. Les mineurs tombaient malades. Ils étaient immédiatement envoyés dans une baraque pour les malades du choléra et personne n'en revenait. Et puis, une rumeur courait parmi les mineurs, selon laquelle c'était les médecins qui empoisonnaient, c'était la bourgeoisie qui empoisonnait. Et puis, des témoins sont apparus qui avaient vu quelqu'un passer près d'un puits et y verser de la poudre, et tout un tas d'inepties du même genre.
In the beginning, when Khrushchev began recording his memoirs,
au début, lorsque Khrushchev a commencé à enregistrer ses mémoires, il se promenait seul et racontait des histoires.
And then, eventually, first of all, the radio, the recorder was very heavy.
Et cet enregistreur pesait lourd, 5 kilos.
Tape recorder. So,
c'était devenu difficile à porter pour un homme âgé au cœur fragile.
For an elderly man with a unhealthy heart, it became strenuous to carry that around.
Le plus souvent, ça se passe dans son jardin. Pour cette raison, on entend souvent des bruits de fond, des avions qui passent. C'est pas toujours facile de déchiffrer ce qu'il dit. Parfois à l'intérieur, beaucoup plus rarement, encore une fois, il se sait écouter, il se sait enregistrer.
At some point, he simply stopped caring about whether Brezhnev and his operatives were listening to what he was doing.
Puis à un moment donné, il a cessé de se soucier de savoir si Brezhnev et ses agents l'écoutaient. Il a fini par s'installer dans son salon et s'enregistrer avec des interlocuteurs. Répondre à leurs questions l'aidait à préciser ses souvenirs. Quand vous conversez, tout s'enchaîne. Ce n'était plus un méli-mélo d'histoire spontanée, mais une conversation dirigée qui lui permettait de mieux structurer ses pensées et d'en dire davantage.
Au début, il est question d'enregistrer deux fois par jour, une à deux heures, le matin, puis Khrouchtchev fait sa petite promenade, déjeune, lit, et ensuite, après l'après-midi, il fait une nouvelle dictée d'une à deux heures. Ces dictées, c'est quand même un travail d'équipe. On s'imagine Khrouchtchev tout seul dans le fond de son jardin avec son petit magnétophone, mais c'est un travail d'équipe. Il y a des gens qui sont autour de lui. Il y a Sergueï, son fils. Sa femme, la femme de Khrouchtchev, Nina Petrovna, elle s'est tapée à la machine, elle va aider aussi Khrouchtchev à retranscrire ses mémoires, parce que dès le début, on se dit que ce sont des bandes enregistrées, mais il faut les retranscrire. Il faut que ce soit lisible. Parce qu'à écouter comme ça, c'est extrêmement pénible. Sergueï va conserver ses bandes. Il se dit que chez lui, personne ne pourra les prendre.
So the KGB and probably Brezhnev himself were certainly aware that Khrushchev was.
Le KGB et probablement Brezhnev lui-même savaient certainement que Khrushchev enregistrait ses mémoires en vue de leur publication.
And
bien sûr qu'ils le savaient, parce qu'ils savaient tout.
Because they knew everything. They had bugs everywhere.
Il y avait des micros partout.
I think in the beginning, Sergei told me it bothered.
Sergei m'a dit qu'au début, ça dérangeait son père. Mais au fil du temps, il a dit, je m'en fiche. Il s'enregistrait de plus en plus et s'investissait de plus en plus dans le projet. Au début, Nikita Khrouchtchev pensait encore avoir une chance de publier ses mémoires en Union soviétique. C'était son rêve. Ça m'a marqué. Il voulait publier ses mémoires chez lui. Ils n'étaient pas destinés à un public étranger. Il voulait le faire chez lui. Et puis, il a réalisé que cela ne se ferait pas.
Khrouchtchev sera convoqué officiellement au Kremlin. On lui dira, en gros, ce que vous faites n'est pas bon pour le parti. Voilà. Parce que vous devez arrêter. Parce que vous vous rendez compte que ces bandes enregistrées, ces retranscriptions pourraient être volées par les services secrets occidentaux. C'est quand même très dangereux ce que vous faites. Elle pourrait servir ensuite contre nous. Vous imaginez que vous faites œuvre utile pour la société soviétique ? Pas du tout. Vous préparez une bombe contre l'Union soviétique dont pourraient profiter les services secrets CIA ou autres services secrets, et comme on sait qu'ils sont très actifs en URSS, qui ont leur agent. Ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'obtenir un kompromat, des matériaux compromettants sur la direction soviétique actuelle. Il pique une de ces colères noires dont il a le secret, il va avoir des palpitations par la suite, hein, parce que, en disant qu'il fait ce qu'il veut, qu'il ne cherche qu'une chose, c'est de dire la vérité, que toutes ces histoires sur les services secrets, c'est du bidon. Mais Sergueï Khrouchtchev, le fils de Khrouchtchev, il est persuadé qu'il faut absolument que ses mémoires voient le jour, en fait. Et il sait à ce moment-là qu'effectivement, il y a un risque que les bandes soient confisquées par le pouvoir et qu'il faut se dépêcher. Donc il va presser son père, il va le presser, à reprendre le travail, à reprendre les dictées. Il va également faire des doubles, des copies, des bandes et des retranscriptions.
Sergei had known this colorful figure, Victor Louis, who was.
Et Sergei connaissait ce personnage haut en couleur, Victor Louis, qui était. Je ne sais même pas quel mot utiliser pour le qualifier.
I don't even know the word for him. He's kind of this enigmatic figure who operated between the West and the Soviet Union.
C'était un personnage énigmatique qui évoluait entre le monde de l'Ouest et le monde soviétique.
Il y a toutes sortes d'opérations clandestines qui font penser qu'on a affaire vraiment à des révolutionnaires qui cherchent à échapper au pouvoir. Or, il s'agit ni plus ni moins que de l'ancien dirigeant de l'Union soviétique. C'est quand même l'histoire de l'arroseur arrosé.
C'était « Les mémoires de Nikita Khrouchtchev ». Premier épisode, Le Retraité. Un documentaire de Marie Chartron réalisé par Franck Lilin.